Accent d'Europe, Juliette Rangeval.
Bonjour. Vacciné ou pas, la crainte d'une nouvelle vague de Covid-19 rend la question toujours plus sensible et les pouvoirs publics s'interrogent sur la manière la plus efficace de convaincre les personnes hostiles ou réticentes à se faire vacciner. Aux Pays-Bas, on se souvient qu'en début d'année, le pays a été secoué par des émeutes en marge de manifestations anti-mesures sanitaires, des violences dans les grandes villes, mais aussi dans la région très conservatrice de la ceinture de la Bible. Là, c'est un centre de dépistage au Covid-19 qui a été incendié. Un autre a été visé par l'explosion d'un engin artisanal et des journalistes ont même été agressés devant des églises. En cause, une forte méfiance envers les autorités et une vaccination taboue dans de nombreuses communautés protestantes. Sauf que depuis peu, face à la menace du Covid-19, les choses changent et une partie des croyants de la région envisagent de plus en plus de se faire vacciner. Dans la ceinture de la Bible, un reportage d'Antoine Moutot.
Le chignon juché sur le haut du crâne et en robe à petits points noirs et blancs. À la sortie d'une droguerie du village d'Elspate, Rerda installe son petit-fils sur le siège bébé de son vélo. Au début, elle hésite à répondre à nos questions, mais quand elle entend qu'il s'agit du vaccin, elle se lance.
Nous ne voulons pas du vaccin, nous mettons notre confiance dans le Seigneur, qu'il nous soutienne et nous préserve. Le Seigneur donne les maladies, et je pense qu'il a également donné cette maladie en guise de signe, et même de jugement à propos des Pays-Bas. Car le peuple néerlandais s'est détourné du Seigneur. Je pense qu'il veut nous montrer que nous devons retourner à lui.
Rerda n'est pas opposée à la médecine en général. Mais c'est le principe de se protéger d'une maladie avant même de l'avoir attrapée qui la gêne.
Si nous sommes malades, nous pouvons prendre des médicaments, mais nous n'allons pas nous faire vacciner si nous ne sommes pas malades.
Et elle craint aussi que la crise sanitaire et le vaccin ne déteignent sur le mode de vie des habitants les plus conservateurs de sa région.
Nous devons rester nous-mêmes, car nous sommes tous aussi pécheurs et coupables. Je ne regarde pas les autres de haut, mais nous devons rester nous-mêmes.
Cet avis, une partie des habitants de la région le partage. La Bible Hordle ou Bible Belt, en français la ceinture de la Bible, est une zone du centre des Pays-Bas où vivent de très nombreux protestants conservateurs. Elle sépare le sud catholique du pays et les grandes villes comme Amsterdam et Rotterdam plus au nord. Dans la Bible Hordle, le dimanche, jour du Seigneur, chez certains la télévision reste éteinte. Et le même jour, sur Internet, le site du journal chrétien Het Reformatorisch Dagblad est fermé. Dans les rues de quelques petites villes, il n'est pas rare de croiser des personnes âgées revêtues d'un costume traditionnel. Et surtout, ici, les églises sont en général beaucoup plus fréquentées que dans le reste du pays. Les pasteurs les plus conservateurs refusent d'accepter les journalistes pendant le culte le dimanche, car ce serait, jugent-ils, se rendre complice de leur travail dominical. Wilbert van Ieperö, lui, est membre d'un courant plus progressiste du protestantisme.
Jésus voit les gens. Il vous voit, il me voit. Dieu est là lorsque nous sommes heureux et faisons la fête, mais aussi lorsque nous avons des difficultés et que nous sommes seuls.
La crise sanitaire a été synonyme de nombreux questionnements pour le pasteur Van Ieperö et son église. L'un des derniers en date est la possible instauration d'un accès au culte réservé aux personnes vaccinées.
Le cœur de l'existence d'une église, c'est de vouloir que les portes soient grandes ouvertes. Nous ne voulons pas demander aux gens s'ils sont vaccinés, comme c'est le cas notamment dans les festivals aux Pays-Bas, et les laisser entrer ou non selon leur réponse. Car l'église doit être l'endroit où les gens sont toujours les bienvenus. Cette manière qu'a Jésus d'inviter les gens en tant qu'église, nous ne voulons pas nous en éloigner.
Mais contrairement à d'autres courants plus conservateurs, son église n'est pas du tout opposée à la vaccination.
Je crois que la plupart des membres de mon église, l'église protestante aux Pays-Bas, sont d'accord pour dire que Dieu a donné la connaissance nécessaire à l'homme afin qu'il puisse développer des médicaments et des vaccins.
À une centaine de kilomètres de là, toujours dans la Bible Hordle, dans la petite ville de Werkendam, Eric Arterès consulte ses courriels. Depuis plusieurs mois, cet ancien médecin devenu pasteur est contacté par des fidèles de toute la ceinture de la Bible, encore indécis.
Ceux qui travaillent dans la restauration, dans des résidences pour personnes âgées ou dans des hôpitaux, se demandent si en dépit des mises en garde dans leurs églises, ils ne vont pas malgré tout se faire vacciner. Car parfois, ils voient des patients, des jeunes notamment, arriver en soins intensifs, en détresse respiratoire, ou alors parce qu'ils aimeraient éviter une transmission à des patients.
Eric Arthurès ne dicte pas aux fidèles ce qu'ils doivent faire. En revanche, il tente, dit-il, de les renseigner sur les derniers développements de la médecine, tout en les invitant à suivre leur conscience et toujours placer Dieu au centre de leurs décisions, qu'elles soient favorables à la vaccination ou non. En 2019, quelques mois avant le début de la crise sanitaire, la Bible Hordel avait de nouveau fait parler d'elle en raison d'un début d'épidémie de rougeole dans le village de pêcheurs d'Urk, où le taux de vaccination est bas comparé au reste du pays. Mais la menace du Covid-19 semble avoir fait changer d'avis une partie de la population. Selon un récent sondage de septembre 2020 à avril dernier, la proportion de personnes prêtes à se faire vacciner contre le Covid-19 est passée de 16 à 35% chez les protestants les plus conservateurs et de 47 à 61% chez les plus progressistes.
La Russie, très touchée par le Covid-19, ne se fait pas assez vacciner. La méfiance est trop forte. Les explications de Jean Cassé.
Souvenez-vous, c'était en août dernier. La Russie prenait le monde entier de court en annonçant homologuer le premier vaccin contre le coronavirus au monde. Avant Pfizer, avant AstraZeneca et Moderna, en hommage à une autre prouesse scientifique russe, il s'appelait Sputnik V. Près d'un an plus tard, le constat est terrible. À peine 15% de la population russe est vaccinée. Et ce n'est pas faute de doses disponibles, c'est faute de volontaires. Toutes les enquêtes d'opinion l'indiquent, seuls 30% des Russes se déclarent prêts à recevoir une injection du vaccin. Pourquoi si peu d'enthousiasme? Déjà, parce que la Russie a passé des mois, depuis l'automne dernier, sans pratiquement aucune restriction à la vie quotidienne. Magasins, restaurants, cinémas, musées, tous ouverts, aucun couvre-feu, port du masque uniquement en intérieur, et encore. Le tout sur fond d'un discours officiel affirmant que l'épidémie avait été vaincue en Russie. Dans ces conditions, pourquoi se presser pour se faire vacciner? Mais plus profondément, c'est que les Russes n'ont confiance ni en leurs médecins, ni dans leur système de santé, ni dans leurs médias, ni dans leurs autorités. En fait, ils n'ont confiance en rien, ni personne. Paradoxalement, cette méfiance que récolte le gouvernement, c'est lui qui l'a semée. Depuis deux décennies, sa propagande répète ad nauseam, de façon implicite, un message cynique et nihiliste. L'idée que tout gouvernement, toute organisation, toute entreprise politique est fondamentalement corrompue et dissimulatrice. Et ce message, il a été parfaitement assimilé. Le résultat, c'est une population profondément aliénée qui a appris à se méfier de tout et qui est extrêmement perméable aux théories complotistes. Ajoutez à cela le fait que l'industrie pharmaceutique nationale a une réputation particulièrement mauvaise auprès des Russes, et voilà comment, dans un pays qui a inventé le premier vaccin au monde contre le Covid, et alors que ce vaccin est considéré comme sûr et efficace par la communauté scientifique internationale, les deux tiers de la population refusent de se faire vacciner.
La Cour européenne des droits de l'homme juge la vaccination obligatoire nécessaire en démocratie. Il ne s'agit pas d'un dossier lié à la vaccination Covid, mais cette décision pourrait avoir des répercussions. Des parents tchèques anti-vaccins avaient saisi la Cour de Strasbourg en avril dernier parce qu'ils estimaient que leurs enfants non vaccinés contre les maladies infantiles ne pouvaient se voir refuser l'inscription à l'école maternelle. Les précisions d'Alexis Rosenzweig, notre correspondant à Prague.
Aucun enfant non vacciné contre les maladies comme la polio, la diphtérie ou le tétanos n'a le droit d'être inscrit dans une école maternelle publique en République tchèque. Ces dernières années, le nombre de parents ne souhaitant pas faire vacciner leur progéniture a eu tendance à augmenter et certains de ces anti-vax ont décidé de porter l'affaire en justice. C'est le cas de ce couple qui, après un échec devant les juges tchèques, a déposé un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme, estimant que la non-admission de leurs enfants à l'école maternelle avait impliqué pour eux la perte d'une occasion cruciale de développer leur personnalité. Nouvel échec, sans possibilité d'appel en avril dernier, la Cour a estimé que la vaccination obligatoire était, je cite, « nécessaire dans une société démocratique ». Soulagement du côté de l'éducation nationale, puisque le juge européen ne considère pas que les droits humains sont violés en la matière. Stupeur du côté des anti-vax, alors que la campagne de vaccination anti-Covid bat son plein et qu'environ 80% de la population tchèque a reçu au moins une dose. À l'heure où le pass sanitaire est en train d'être mis en place pour tenter d'endiguer la pandémie. Cet arrêt prend évidemment une importance particulière. Selon certains juristes, le juge européen a ainsi conforté l'obligation vaccinale sous condition. Les opposants au vaccin ne baissent pas les bras pour autant, à commencer par l'ancien président de la République tchèque, Václav Klaus, devenu une des figures du mouvement après avoir contracté le Covid alors qu'il refusait ostensiblement de porter un masque à chaque rassemblement public.
L'opposant biélorusse Viktor Babariko a été condamné à 14 ans de réclusion dans une colonie pénitentiaire de sécurité renforcée. L'ancien banquier était jugé pour corruption. Il était en prison depuis qu'il avait décidé de défier Alexandre Loukachenko à la présidentielle d'août dernier. Un portrait signé Anastasia Bekio.
Nous ne choisissons pas l'époque dans laquelle nous vivons, mais nous choisissons le chemin que nous devons prendre. C'est par cette phrase que Viktor Babariko débute le documentaire autobiographique diffusé par son équipe de campagne au début de l'été dernier. Durant 23 minutes, l'homme au visage rond, à la carrure massive et à l'allure bonhomme, s'y dévoile parlant de sa vision du pays, évoquant la disparition de sa femme ou encore ses rêves d'enfant. Conquis par sa personnalité, Ivan Kravtsov a rejoint son équipe de campagne en mai 2020 en tant que responsable des relations publiques.
Tout d'abord, c'est quelqu'un de très intelligent, mais le plus important, c'est qu'il est honnête et bon. Il comprend très bien les gens, il n'est pas distant. Il se concentre toujours sur les choses positives et il tente de tirer le meilleur de chaque personne et de lui donner un but. Il se considère comme un dirigeant efficace qui peut faire du bien au pays.
En quelques semaines, son équipe réunit 435 signatures, un record pour un concurrent d'Alexandre Loukachenko. Des personnalités comme la prix Nobel de littérature Svetlana Alexievitch soutiennent sa candidature. Mais le jour où Viktor Babariko se rend en compagnie de son fils à la commission centrale électorale avec ses parrainages sous le bras, les deux hommes sont arrêtés. L'ancien banquier est alors accusé de fraude et de blanchiment d'argent. Valérie Karabelevitch, politologue.
En Biélorussie, peu nombreux sont ceux qui doutent du fait que cette affaire est politique. Dès qu'il a rendu public ses ambitions politiques, il a été arrêté. Il faut savoir que Viktor Babariko est jusqu'à aujourd'hui l'homme politique le plus populaire du pays, devant Alexandre Loukachenko. Et c'est pourquoi ce dernier ne pouvait pas le maintenir en liberté, parce qu'il constituait une menace. Selon la logique des autorités biélorusses, il doit être en prison.
Fort d'une expérience de 20 ans à la tête de Belgazprom Bank, une filiale du géant russe Gazprom, Viktor Babariko s'était lancé dans la campagne en critiquant le système économique largement contrôlé par l'État. Le président Alexandre Loukachenko l'avait alors accusé de vouloir privatiser le pays, tout en insinuant qu'il était financé par Moscou. Valérie Karabalevitch.
Il n'y a aucun signe qui permette de dire qu'il était le candidat du Kremlin. Il n'y a eu aucune déclaration publique de soutien du côté des officiels russes. Ils n'ont pas exigé sa libération. Quant à la question de savoir s'il aurait été un candidat acceptable pour Moscou, je pense que oui. Il n'était pas partisan d'une rupture avec la Russie pour se rapprocher de l'Occident. Il était à la tête d'une banque de Gazprom. C'est pourquoi je pense qu'il constituait une figure tout à fait acceptable pour la Russie.
Et 14 ans de prison donc pour Viktor Babariko. Une peine insensée a aussitôt réagi sur Twitter l'opposante en exil Svetlana Tikhanovskaya.
Good evening, I'm Andrew Neil and this is GB News.
Un petit nouveau dans le paysage audiovisuel britannique, c'est GB News, une chaîne de débat qui veut quand même concurrencer les chaînes d'information que sont la BBC et Sky News. On en parle avec notre correspondante à Londres, Marie Billon. Bonjour Marie.
Bonjour Juliette.
Marie, GB News a une ligne éditoriale relativement claire.
Alors pour certains, oui, c'est une chaîne d'opinion qui penche clairement à droite et qui ressemble à s'y méprendre à la chaîne Fox News aux États-Unis, tant aimée de l'ex-président Donald Trump. Mais GB News réfute cette comparaison. Andrew Neil, ex-présentateur phare de la BBC et l'un des fondateurs du projet, a expliqué son but dans son discours d'inauguration diffusé lors du lancement à 20h le dimanche 13 juin.
Welcome to the launch of GB News.
Bienvenue au
lancement de GB News, la chaîne d'information de la Grande-Bretagne, destinée à couvrir les nouvelles qui sont importantes pour vous et à donner une plateforme à ceux qui se sont sentis ostracisés, voire réduits au silence dans nos grands débats nationaux. GB News ne va pas suivre comme un esclave l'agenda des news. Nous ne sommes pas une chaîne d'information continue et nous ne proposons pas de bulletin d'information conventionnel. Nous diffuserons des émissions où les opinions pourront se faire entendre. Nous nous concentrerons sur des informations qui sont importantes pour vous, mais que d'autres négligent. Et même quand nous couvrirons les mêmes sujets, nous le ferons d'une manière très différente.
Andrew Neil a, dans son émission éponyme, une page appelée Woke Watch, où il passe en revue les initiatives de ceux qu'il présenterait comme des bien-pensants adeptes du politiquement correct. La plupart des programmes sont des talk shows, avec des présentateurs vedettes, assis sur des canapés ou autour d'une table, dans un décor de salon bibliothèque chic. La programmation est suffisamment élastique pour que tout sujet puisse être abordé. Et puis il y a aussi les invités. Dès les premières heures, l'ex-chef du parti eurosceptique UKIP, Nadia Farage a été invité, lui qui est désormais largement absent dans les médias. Au moins un membre de l'organisation climato-sceptique GWPF a aussi été invité.
Et alors, GB News semble être en passe de réussir son pari. Quelles sont les parts d'audience ?
Alors, la chaîne a franchement bien démarré. La première émission d'Andrew Neil a recueilli 262 000 téléspectateurs avec un pic à 336 000 durant les premières minutes. Pendant ce temps, la BBC, elle, n'avait que 100 000 personnes à son écoute et Sky 46 000 selon l'organisme qui étudie les audiences, BARP. Mais rapidement, ces bons chiffres se sont évaporés. Selon la même source, à la fin de la deuxième semaine, les audiences étaient redescendues à 31 000 par jour contre 95 000 pour la BBC et 59 000 pour Sky. La chaîne a besoin d'une audience journalière de 139 000 en moyenne pour attirer les publicités et amortir ses coûts annuels de 25 millions de livres. Ça, c'est selon le cabinet d'analyse Enders Analysis. Et c'est là que ça se gâte, parce que d'abord, les revenus publicitaires ont chuté ces derniers mois. Ensuite, certains grands noms qui avaient acheté de l'espace publicitaire sur GB News se sont rétractés. IKEA, Nivea, le fournisseur d'énergie Octopus, l'université Open University ont tous retiré leurs pubs, ce qui a généré une belle diatribe d'Andrew Neil.
Ces compagnies ont cédé à la pression d'un groupuscule baptisé Stop Funding Hate, arrêtez de financer la haine. On a rarement vu une appellation si peu appropriée. Elles se sont toutes agenouillées devant Stop Funding Hate. Il est important que ces compagnies aient vous sachiez à la merci de qui elles sont. SFH ne représente pas une société libérale et inclusive. Elle est dominée par des agitateurs d'extrême gauche et des hurluberlus qui poussent les publicitaires à boycotter toute organisation médiatique avec qui elle est en désaccord.
Marie, GB News s'est malgré tout fait un nom en quelques semaines. Pas forcément pour des raisons très glorieuses.
S'il y a quelque chose pour laquelle GB News s'est fait remarquer, eh ben c'est bien pour ses soucis techniques et ses ratés. Le mot-clé GB News Fails, qu'on peut traduire par les déboires de GB News, a rencontré beaucoup de succès sur Twitter. Les Britanniques postent les moments risibles, notamment en filmant leur télé.
Coming up, we hear from our reporters across the Hello again.
On a aussi souvent pu voir des employés passer, se regarder, faire des gestes étranges dans les vitres qui se reflétaient sur le plateau. Il faut dire que le décor n'était pas complètement fini lors du lancement. On entend la présentatrice se mettre à rire nerveusement à cause des coups de marteau en fond. Et puis il y a les nombreux soucis techniques comme de douloureux silences antennes.
And now for those whose favorite thing is the weather. Here's the weather.
Sans parler des erreurs dans la titraille, bref, s'il n'y a pas de mauvaise publicité, comme on dit, alors GB News a remplacé le boycott des grandes marques.
Merci Marie Billon, à bientôt. Accent d'Europe à la réalisation, Françoise Grelot. Vous retrouvez le podcast de l'émission sur RFI.fr ou sur votre plateforme d'écoute préférée. À bientôt.